L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, rediffusée à 18h. Notre invitée du jour, je vais être franc avec vous, je la connais bien, j'ai même un petit peu travaillé avec elle, c'est normal, elle a fait de la radio aussi. Et depuis quelques temps, quelques années on peut dire, elle est passée, donc, comme je le disais, derrière une caméra. Elle s'est mise à faire des images plutôt documentaires. Elle ne fait pas que ça, elle va nous raconter. Et elle s'est notamment, elle a eu une bonne idée, elle s'est intéressée à une radio cousine de Radio Évasion qui fait partie du même réseau que nous, la Core Lab. Une radio en langue bretonne, la petite fille de Radio Kernet. Bonjour Anne Gouérou.
Bonjour.
Vidéaste, maintenant on peut dire ça, enfin je ne sais pas comment on dit, ciné-documentariste.
Documentariste. Documentariste. Oui, je crois que c'est le mot qui convient le mieux. Je continue à dire journaliste, documentariste.
Sauf que dans documentariste, il y a un côté création un peu aussi, enfin, oui. Peut-être plus que journaliste.
Un journaliste écrit quand même, mais et un documentariste en effet écrit, parce que tous les projets documentaires sont des projets qui sont extrêmement écrits. Ça dépend, hein, c'est variable, mais ils peuvent être extrêmement écrits ou plus ou moins écrits, parce qu'il y a toujours une part aussi qui n'est pas dans l'écriture, puisque c'est du cinéma, du réel. Donc on ne peut pas tout écrire à l'avance, mais néanmoins on y a bien réfléchi, on l'a bien élaboré, on l'a bien écrit. Donc c'est vrai que peut-être qu'il y a plus de parts de création, en effet, que quand même dans le journalisme.
Et puis, il y a une temporalité. Là, vraiment, en plus, c'est vraiment le cas dans le documentaire dont on va parler en priorité. Il y a vraiment une temporalité qui peut être beaucoup plus longue que dans le reportage de journalisme, en fait. C'est ça aussi. Ça peut durer des mois, quoi.
Oui. En fait, là, la temporalité, c'est vrai, d'un documentaire, elle est longue. Et pour nous, elle a été particulièrement longue, hein, puisque c'est vrai qu'on a filmé pendant 2 ans, voilà. cette aventure.
Alors, l'aventure, donc Radio Naoned, c'est ça?
Radio Naoned, PB Sabaden, ce qui veut dire en breton quelle aventure, et il y a un jeu de mots en breton qu'on ne peut pas comprendre en français, qui est que Nabaden, c'est une émission. Une émission de radio, c'est Nabaden Radio. Et en même temps, ça veut dire PB Sabaden, ça veut dire quelle aventure. Donc voilà, donc il y a un jeu de mots. Voilà.
Ah, ça tombait fort bien!
Tout à fait.
Alors pourquoi avoir choisi déjà de filmer une radio?
C'est ça. En fait, je pense que début 2018, j'avais entendu dire que Radio Kernet se portait candidat pour créer une radio à Nantes sur un appel à projet du CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur les nouvelles ondes numériques. Et puis,
ce qu'on appelle la RNT, la radio numérique terrestre, ou le DAB+. Là, c'est du jargon. C'est vrai que ça n'existe pas trop dans le Finistère pour l'instant. Mais...
Voilà, ah. En fait, c'est un peu l'équivalent, pour que les gens comprennent, c'est l'équivalent de la TNT à la radio. Donc voilà. Et en fait, je vous rappelle qu'en janvier 2018, j'entends dire qu'ils ont obtenu, et ça circulait comme ça dans ma tête. Moi, je connaissais bien Radio Kernet, puisque j'avais travaillé dans les locaux de Radio Kernet.
Oui, c'est ça, le passé de radioteuse, c'est ça.
Il est là, et ça, je me disais, c'est une sacrée aventure. Et quelques mois plus tard, je me suis décidée à aller rencontrer Lou Milour, la directrice de Radio Kernet, et lui dire, bah, voilà, j'aimerais bien suivre cette aventure.
Vous vous connaissiez avec Lou ou pas?
Oui, parce qu'on avait...
Vous aviez bossé ensemble déjà.
On avait travaillé ensemble, en fait. Hein, donc c'est vrai qu'on se connaissait. J'étais pas du tout une inconnue quand je suis venue lui demander si elle accepterait que cette aventure soit suivie au long cours, parce qu'on savait que c'était un chantier au long cours.
Donc on était à quelle date exactement
Là, moi, quand je suis allée la rencontrer, on était en avril 2018.
D'accord. Donc là, ils avaient décidé de se lancer.
C'était décidé qu'ils se lançaient. C'était vraiment décidé. Ils avaient obtenu le feu vert du CSA, donc, mais tout restait à faire. C'est-à-dire qu'ils n'avaient ni locaux, ni salariés, ni ligne éditoriale complètement élaborée, ni contenu, ni programmation, etc. On en était vraiment au balbutiement. Ils y avaient réfléchi, forcément, pour élaborer un dossier. Oui. Mais on en était vraiment au début. Et tout de suite, je lui ai dit que j'aimerais bien, une fois qu'elle m'a dit bah, « ok », que j'aimerais bien faire une co-réalisation. Je ne lui ai pas dit qui. Et puis, je suis allée voir Kenan Anabasque, qui est réalisateur, comme moi, installé au pôle audiovisuel de Douarnenez, bretonnant lui aussi. Et j'ai proposé ça à Kenan, de faire ça en co-réalisation.
Ah oui, pourquoi?
Alors, C'était pour moi une première. Il y avait plusieurs avantages. Je pense que c'est plus riche. C'est riche aussi d'avoir une co-réalisation, ces deux regards qui se croisent. Je savais que c'était un chantier au long cours. Éventuellement, il peut y avoir un événement important. Et puis, on n'est pas là où on est sur un autre projet et on ne peut pas y être. Donc, être deux, ça permet de pallier à cette difficulté-là. Et puis, d'autre part, l'équipe qui allait lancer, c'était une équipe jeune et qui n'en est plus jeune que moi. Et donc, ça a été aussi la certitude qu'en étant de deux générations différentes, moi ayant une connaissance aussi pour y avoir travaillé, pour avoir travaillé dans le monde de la radio, et lui étant d'une génération, donc début une trentaine d'années.
Et il ne connaissait pas la radio spécialement, lui.
Il a été journaliste, il a un peu fait de radio aussi, mais, ouais. Mais il connaissait les équipes. Donc, en fait, c'était avoir une sorte d'équilibre et je crois que c'était...
Ça s'est bien passé.
C'était le bon choix.
Mais vous n'aviez jamais travaillé ensemble, ceci dit.
On n'avait jamais travaillé ensemble.
Ouais, donc, c'était quand même un pari aussi à ce niveau-là.
Oh, c'est un pari gagné, oui.
Ouais.
Oui.
Et la maison de production, on la trouve au début ou enfin comment ça se passe dans ces cas-là? C'est Tita Production, c'est ça?
Oui, on la trouve. Il faut la trouver assez rapidement, mais il faut d'abord écrire un dossier, un premier dossier. Donc c'est là tout le travail d'écriture long du documentaire. Donc on a commencé à filmer déjà tout de suite assez rapidement parce que l'aventure commençait et qu'il fallait en garder des traces. Et puis à écrire un synopsis, écrire un premier scénario. Et puis à ce moment-là, le proposer à des sociétés de production. Donc on l'a proposé à deux sociétés qui, toutes les deux, ont accepté,
ah ouais.
Dont Tita. Donc c'est une chance d'avoir le choix.
Et qu'est-ce qui leur plaisait dans le projet en particulier? C'était la langue bretonne, c'était la radio, c'était quoi?
Et ben c'était le tout, en fait. C'est ce pari un petit peu fou d'essayer d'implanter une radio numérique dans un territoire urbain, assez éloigné, peu bretonnant.
Oui, parce que c'est vrai qu'à Nantes, bon, il y a quand même une école d'Iwan, apparemment. Enfin, c'est à Saint-Herblain, très exactement.
C'est à Saint-Herblain, donc dans la périphérie immédiate de Nantes.
Hein. La plus proche de nous, on va dire. La plus proche du Finistère.
Oui. Il y a des bretonnants, des brittophones en Loire-Atlantique, à Nantes, etc. Mais moins, évidemment, que dans le Finistère, c'est certain. Et donc... C'était aussi quelque chose de jeune, c'était un média aussi jeune, une équipe dynamique. Donc c'est tout ça aussi qui, je crois, a plu à Tita Production. Ce pari, en fait, ce pari, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Évidemment aussi, ce qui était intéressant pour nous avec Tita, c'est que Tita n'est pas... Autant Kenan que moi, on connaît bien ce monde de la langue bretonne, autant Tita est moins baignée là-dedans. Donc, ça donnait aussi une sorte de distance qui était intéressante pour nous. Laurent Sansker, qui nous a suivis, nous a vraiment amenés à réfléchir à certaines choses qu'on aurait peut-être auxquelles on n'aurait pas forcément réfléchi autrement.
Ah oui, c'est toujours actif comme ça, un producteur
En tout cas, là, ça l'était.
D'accord.
En tout cas, là, ça l'était. Elle a été très impliquée, très active. Elle a suivi vraiment le projet et elle nous a tirés. Oui, vraiment. Ouais. Donc, c'était bien, oui.
Et le format, là, c'est une, on va dire, une mini-série documentaire. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire ça, de 7 épisodes. Ils font entre 6 et 8 minutes chacun, on va dire.
Autour de 7 minutes,
ouais.
Oui.
Et ça, c'était prédéterminé ou est-ce que ça se décide en cours de réalisation, en fait?
Alors non, au début, avec Kenan, on était sur la réalisation d'un 52 minutes, de manière classique, le format classique pour la télévision. Et puis un bon format pour un documentaire. Et... je crois que c'est Laurence Ansker de Tita qui nous a un petit peu mené en se disant ça permettrait de correspondre au rythme aussi de la création, ça nous permet d'être un peu raccord avec ce média numérique un peu nouveau, être dans une série courte, qui permet aussi de diffuser non seulement à la télévision, mais aussi sur les médias sociaux.
Bah, j'avoue que c'est là que je l'ai vu, hein. Je l'ai vu sur YouTube. Hein.
Évidemment, voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est laissé tenter par ce format très original. Pour Tita, c'était aussi la première fois qu'il faisait une série documentaire.
Ah oui, et c'est pas fini, alors on pourrait avoir un épisode 8 ou 9, ou non, c'est fini.
Il pourrait y avoir une deuxième saison, c'est sûr,
bah, ouais.
Hein, mais pour l'instant, on n'y est pas, non.
D'accord. Donc on commence en 2018. Alors, je ne sais pas si on peut donner peut-être les grandes étapes. Est-ce qu'il y a eu des grandes étapes déjà dans la constitution de Radio Nahonet?
Forcément, je pense que la première grande étape, c'était de recruter. Donc, ils ont recruté, Radio Carnet a recruté deux jeunes personnes. Mélène, coordinateur, et puis Marianne, qui est animatrice journaliste. Donc, c'était les deux premières recrues avec deux profils, pareil, qui se complétaient bien et qui correspondaient à ce qu'il y avait aussi à Radio Carnet, parce que c'est une co-direction qu'il y a à Radio Carnet.
Ah oui,
direction des programmes, direction du développement.
Parce que Radio Carnet intervient encore dans Radio Nahonet, notamment pour tout ce qui est recherche de financement ou de choses comme ça, gestion, c'est ça ou...
Ce qu'on a suivi beaucoup justement, c'est Lou Milour et Morgane Gramoulet, qui sont donc les co-directrices de Radio Carnet, comment elles ont accompagné Marianne et Mélène à Nantes, beaucoup, et comment ils ont progressivement pris de plus en plus d'autonomie. Les deux filles à Carnet pouvaient leur laisser plus de place progressivement. Donc ça, c'était aussi une belle étape. Donc je dis, le recrutement, ça a été très, très important. Le studio, la fabrication du studio, parce qu'au départ, c'était un débarras.
Oui, c'est en fait, c'est où exactement ? C'était quoi avant ça, ce bâtiment ?
Alors, c'est un ensemble culturel qui est dédié à la culture bretonne à Saint-Herblain, donc avec l'école d'Iwan, le collège d'Iwan, un centre de documentation. C'est là aussi que sont installées les associations qui donnent des cours du soir ou font des stages comme Skolon Hamza ou d'autres. Et donc, c'est vraiment un ensemble, un îlot britophone autour de la culture bretonne à Saint-Herblain. Et là, il y avait quelques pièces de libres qui servaient de débarras. Et donc, c'est ce débarras qui a été vidé et complètement aménagé en studio. Donc, cet aménagement, c'était une grosse étape.
On voit un petit peu dans le documentaire.
On voit les techniciens, Gaël et puis Bruno qui est arrivé en renfort. L'étape technique est une étape très importante. Et puis après, l'étape d'après, c'est le lancement d'abord sur Internet de cette radio, puisque le lancement du DAP+ ou de la RNT, la radio numérique, prenait du retard. Ça, c'était, le calendrier était mené par le CSA, le Conseil supérieur audiovisuel. Ils n'étaient pas maîtres de ce calendrier. Donc, il y avait du retard, ce qui fait qu'ils ont décidé de lancer la radio au mois d'avril 2019 sur Internet d'abord, ce qui faisait un ballon d'essai, c'était assez intéressant. Et puis ensuite, début juillet 2019, c'était le lancement officiel du DAB à Nantes. Donc là, c'était une grande étape avec le président du CSA, les élus, la région, le département, la ville, le monde de la radio, mais tout le monde de la radio.
Oui, c'est ça, bien sûr. Ouais.
Voilà, toute radio, dont les radios associatives, mais qui sont qu'une petite part des radios. Donc ça, c'était une autre grande étape. Et puis la dernière belle étape, c'était qu'on a filmé, c'était vraiment le lancement à partir de l'automne de Radio Nahonet, vraiment
en tant que tel,
avec le lancement des premières émissions avec des bénévoles.
Oui, c'est ça, parce que c'est une radio qui a finalement pas mal de bénévoles.
Beaucoup de bénévoles.
On pourrait se dire, bah oui, mais s'il n'y a pas tant de brictophones que ça, est-ce qu'il va y avoir des bénévoles pour faire vivre la radio aussi?
Et ça, c'est vraiment très différent justement du format de Radio Carnet qui s'appuie vraiment beaucoup sur son équipe de 6 salariés. C'est une grosse équipe pour une radio associative.
Oui, parce que nous, on n'est que 3 par exemple à Radio Évasion. Pour avoir un point de comparaison.
De comparaison. Et donc voilà, donc eux ils sont 6, donc c'est vraiment une radio professionnelle. Et pour Nantes, ils savaient qu'ils ne pourraient pas dupliquer ce modèle, ils n'arriveraient pas à avoir autant. Donc il fallait absolument s'appuyer sur des équipes de bénévoles. Et c'était une grosse part du travail de Marianne que de composer ces équipes, et qu'elle a fait brillamment.
Ouais. Et puis il y a tous les âges apparemment, tous les profils, enfin c'est vraiment, ça donne envie en fait. Et vous, alors les réalisateurs, vous regardiez ça, donc combien de fois vous êtes allés filmer finalement
Alors j'ai pas compté combien de fois on est allé, je saurais plus dire. Disons qu'en moyenne, je pense qu'on y était tous les mois à peu près, une fois par mois, mais c'était variable aussi, c'était en fonction de l'actualité, de leur actualité, des étapes qui se passaient. Je pense, hein, donc on est allé vraiment régulièrement. On a vraiment, c'est pour ça que dans le film, on peut voir les différentes étapes, ouais. Dans la série plutôt.
Bah ouais. Et vous montiez étapes. Au fur et à mesure, ou est-ce que il y avait quand même, vous gardiez de la place pour des images qui viendraient après? Enfin, comment est-ce que ça se passe dans ces cas-là?
Non, le montage est vraiment à la fin. Donc on a fini de filmer début mars 2020.
Oh, et combien d'heures de rush
Je ne saurais plus dire. C'était assez énorme. Et donc, in extremis, on a vraiment les dernières images. Oui, c'était début mars, donc juste un petit peu avant le confinement, donc heureusement. Et puis, donc là, l'étape qui débutait, on a commencé à monter, en fait, à faire un premier travail de montage en janvier 2020, justement pour voir si on savait que là, à ce moment-là, on allait peut-être y aller encore une fois ou deux. S'il nous manquait des choses, voilà. Ouais. Donc avec Julien Cadillac, qui est un monteur installé lui aussi au pôle audiovisuel. Donc ça a été une réalisation pôle audiovisuel de Douarnenez, puisque Tita Productions est installée à Douarnenez au pôle audiovisuel. Julien Cadillac, Kenan Anabasque et moi-même.
Donc, et c'est important d'avoir un monteur dans ces cas-là. Enfin, on peut pas faire le montage soi-même.
La moitié du travail se fait au montage.
Ah ouais. Vraiment. D'accord. Oui. Mais quand même, au fur et à mesure que vous réalisiez, enfin que vous filmiez, vous notiez des trucs quand même. Enfin, vous faisiez une sorte de pré-montage, non? De pré-découpage déjà, non?
Non, on avait déjà, en fait, dans le dossier que l'on a écrit, le découpage était déjà présent.
Et il était pertinent.
On n'était pas, il a pas été suivi à évidemment à 100%, mais il était loin d'être à côté de la plaque. Il était assez, il était assez pertinent. On a pu le suivre à peu près. Et en fait, en janvier, c'est là qu'on a vu un petit peu ce qui nous a permis de faire quelques petites images complémentaires et qui étaient assez intéressantes à faire. Et ça a permis aussi de mettre dans le coup un graphiste, ce qui est aussi un travail graphique, un petit peu infographique évidemment, de penser la musique, etc. Voilà. Et le montage, on devait le débuter exactement le 6 mars, je crois, ou le 7 mars.
Le 16 mars.
Le premier jour du confinement, ouais, c'était le début du montage.
Ah ouais, et donc il a pu avoir lieu sans trop de problèmes, finalement, ce montage.
Non, évidemment, il n'a pas eu lieu en mars, mais...
Ah ouais, parce c'était que pas possible.
Ah bah, le confinement, c'était impossible, hein, parce que dans la même salle, on aurait été, donc Julien Cadillac, Kenan, moi-même.
Ouais, non, c'est vrai. Et on ne peut pas faire en visio, du montage en visio, non, vous n'avez pas expérimenté ça pour voir.
C'est quasi impossible, et le fait aussi que le monteur ne soit pas bretonnant, c'est pas une difficulté de parler, d'avoir un monteur qui soit que francophone, mais par contre, à ce moment-là, à distance, c'est pas possible. Hein, parce que ça nous a demandé à Kenan et à moi-même de faire un travail de, justement, on a profité du confinement pour faire un ours, c'est-à-dire en fait une sorte de sélection des rushs resserrée, mais assez grande, donc, pour que le monteur puisse s'exprimer complètement, puisse choisir et de traduire toutes ces sélections, ces ours.
Parce que le monteur n'est pas qu'un exécutant dans l'affaire. Il a
pas du tout.
D'accord. Il a un regard vraiment de création. Enfin, il a un rôle de création vraiment, quoi.
Ah ben, complètement. Ouais. Et il apporte justement ce regard extérieur. Le travail de création, le travail de montage, c'est un vrai travail de création, oui. Oui.
Ouais, parce que c'est très différent en radio, c'est pour ça. En général, en radio, j'explique pour les auditrices et auditeurs, c'est plutôt la personne qui a fait les interviews qui va faire le montage. Enfin, en tout cas, dans nos petites radios, c'est ça. Hein.
Oui, mais tout à fait, oui. Alors que là, en fait, les réalisateurs arrivent avec une matière qui est déjà, en fait, avec un ours, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'on a déjà sélectionné dans nos rushs ce que l'on jugeait le plus pertinent. Mais le monteur a quand même tous les rushs. C'est-à-dire, en fait, à un moment, il peut dire, et il dit souvent d'ailleurs, oui, mais là, si on rajoutait, et là, nous, on se rappelle, mais oui, on a ça dans nos rushs, on ne l'a pas sélectionné. Et le monteur dit, mais oui, si on ajoute ça, on va pouvoir donner du rythme ou donner de la respiration, parce qu'il faut aussi pouvoir respirer.
D'accord. Donc, il respecte quand même l'histoire, enfin, la trame narrative, on va dire, s'il y en a une, mais c'est lui qui donne le rythme, enfin, qui fait le.
C'est ça.
Un peu comme quelqu'un qui va orchestrer dans une musique, c'est ça, on peut dire ça, quoi.
On peut dire ça un petit peu, oui.
Donc, alors, c'est. Il y a plusieurs aspects dans ce documentaire. Enfin, il y en a quand même un important que je voudrais qu'on aborde, c'est la langue bretonne. Enfin, moi, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai fait un tout petit peu de breton quand j'étais petite. Pas petite, mais il y a longtemps. Et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir d'entendre tout ce breton, là. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose dans votre travail, Anne Gouérou. Il y a du breton, forcément. Hein. C'est le fil rouge, c'est ça?
Oui, c'est vrai que c'est un fil rouge important. J'ai pas travaillé que sur le breton et que sur la matière culturelle bretonne, mais c'est quelque chose qui est proche de moi. Et dans le domaine de la réalisation, donc je réalise des documentaires seulement depuis 2015, hein, donc c'est pas si vieux que ça. J'ai commencé par une série documentaire sur en français, hein, sur la question des violences. Aux femmes, j'ai fait
les
ça
femmes
après.
Quand même, mais pas
les
de la
femmes,
violence.
Mais dans la question de l'accessibilité des femmes à la citoyenneté politique. Donc ça, c'était en français. Donc je réalise aussi dans d'autres langues, mais c'est vrai que le breton, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de sujets à aborder, autant qu'en français ou que dans n'importe quelle langue. Et puis il y a une place pour moi dans...
C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas tellement de réalisatrices ou de réalisateurs britophones peut-être aussi, non?
Ah, il y en a quand même, il y en a. Et il y en a de plus en plus, avec des approches vraiment différentes. Mais c'est vrai qu'il y a une place et il y a besoin de réaliser en breton. Donc c'est vrai que il faut y aller. Et c'est vrai qu'on peut aborder des sujets qui sont, qui dépassent aussi les questions culturelles bretonnes.
Ah oui,
on peut apporter n'importe quel sujet, c'est par exemple le sujet des violences faites aux femmes. Je l'ai abordé en breton, par exemple.
D'accord. Et c'était un documentaire aussi?
C'était un documentaire, oui.
Comment il s'appelait?
Payakuit Solène, quand Solène s'en va.
Bon. Alors, la série sur Radio Net, on peut la trouver, on peut la voir en ce moment. Hein. Enfin, je pense qu'on va pouvoir la voir. Ils ne vont pas l'enlever, non? Ils vont la laisser sur YouTube?
Oui,
c'est
oui.
France 3 qui l'a mise, c'est ça?
C'est France 3 qui l'a mise. En fait, c'est assez intéressant, cette nouvelle façon de diffuser de France 3, parce que c'est vrai que France Télévisions est partenaire de la production. Et donc, du coup, en même temps qu'ils diffusent dans leur émission qui s'appelle Bali Brace tous les dimanches matins, à 10h10, je crois. En même temps, il y a eu une diffusion de l'ensemble des épisodes sur YouTube, sur la chaîne YouTube de France 3 Bretagne. Donc c'est bien.
Ça élargit le public. Enfin, moi, je recommande parce que déjà, on voit comment fonctionne un peu une radio des temps modernes, vraiment des temps modernes. Et puis, la langue bretonne dans un territoire moins britophone. Et puis, l'aventure humaine, tout simplement.
Des jeunes qui ont la pêche quand même.
Ça c'est sûr. Je pense que ça peut intéresser tout le monde, même si je ne suis pas du tout objective. Alors, parmi vos autres projets, alors c'est pas encore publié, je pense, c'est le livre multimédia sur la Troménie, c'est ça, de Le Chronon?
C'est
il
ça.
Est publié?
Non, il sera, je pense qu'il sera publié dans peut-être à la fin du semestre, hein. On n'y est pas tout à fait encore.
Alors, la Troménie de Le Chronon, pour les gens qui ne sauraient pas trop ce que c'est, qu'est-ce que c'est?
Ah, la Troménie, c'est un pardon à la mode de Bretagne, mais très très particulier, puisque c'est une longue procession de 12 kilomètres et qui a lieu uniquement tous les 6 ans pour la Grande Troménie. Et la Petite Troménie a lieu, elle, tous les ans, mais c'est la Grande qui attire toute l'attention. Donc c'est un rythme très particulier, c'est des rituels très particuliers. Donc c'est pas la seule Troménie de Bretagne, mais celle-là, c'est sans doute la plus grande et la plus importante.
Et qu'est-ce que vous... Alors, vous en faites un livre multimédia, mais encore, qu'est-ce que c'est un livre multimédia? Enfin, comment ça va se découper?
Ça fait pas mal d'années que je m'intéresse à cette Troménie. C'est vrai qu'elle est complètement incroyable. C'est un rituel, comme il n'y en a pas deux en Bretagne. Et à un moment, je m'étais demandé justement si je ne voulais pas en faire un documentaire. Et puis finalement, j'étais trop intéressée par l'aspect historique et ethnographique et j'avais vraiment envie de rentrer là-dedans et d'essayer de vulgariser. Alors aujourd'hui, ce mot-là, on l'aime pas beaucoup souvent, mais moi, je l'aime bien. Voilà, je l'aime bien ce mot. Vulgariser tous les recherches de Donatien Laurent, qui est un ethnologue qui a travaillé sur la Troménie et qui a donc écrit pas mal d'articles sur cette Troménie, qui nous a éclairé sur les origines de ce rituel, les origines celtiques de ce rituel. Mais c'est un savant, c'est un chercheur. Et
pas toujours très accessible.
C'est pas toujours accessible. Et donc, je me disais que c'était intéressant de le rendre plus accessible, de le déchiffrer, de rentrer dans les détails, de le décrypter. Et ça, par écrit, mais aussi par l'oral, par des interviews que j'avais réalisées avec Donatien Laurent, et puis par la vidéo, par des petits films. Et donc, du coup, donc j'ai décidé de rester sur une forme justement multimédia, un livre multimédia. Ça veut dire qu'on aura de quoi lire, regarder, parce qu'il sera illustré par des cartes postales, des dessins originaux. Et puis, on pourra l'écouter, il y aura des podcasts.
Et c'est des podcasts de gens que vous avez interviewés ou des archives, enfin c'est quoi
Les podcasts, en fait, c'est une interview que j'ai réalisée en 2014 avec Donatien Laurent, donc l'ethnologue, on va dire l'ethnologue de la Troménie. Donc c'est un découpage, c'est des petites capsules radiophoniques en fait hein, de cette interview pour que ça dure une à deux minutes uniquement. Pour être dans des petits formats multimédia, justement, les gens ne n'aiment pas sur le multimédia.
Paraît-il, mais bon, est-ce vrai?
Ça, on n'est pas sûr, c'est vrai. Et puis, pareil, pour les films, j'ai réalisé j'ai entièrement filmé la préparation et la Troménie 2019, parce qu'elle a lieu donc tous les 6 ans. Donc,
il ne faut pas louper le coche.
Il ne faut pas la rater. Et donc, à partir de ça, j'ai fait un découpage, pareil, thématique, pour avoir des films qui durent là de 2 à 6, 7 minutes, ou 8 minutes, peut-être le plus long.
Et ça sortira quand alors ?
Alors, ça sortira donc grâce à l'association Bretagne Culture Diversité, BCD.
BCD, oui.
Voilà, qui est donc une association régionale spécialisée sur le patrimoine et la culture de Bretagne, ou les cultures de Bretagne. Donc, heureusement, voilà, qu'ils ont accepté de m'accompagner. Donc, quand je tournais en 2019, ils étaient là à mes côtés. Et voilà, donc ça va. C'est un peu aussi une première pour moi, évidemment, mais aussi pour eux de sortir un livre multimédia. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. Avant l'été, j'espère.
En 2021, quoi.
En 2021,
ouais, oui. D'accord. Bon, je crois que Anne Guérou, vous reviendrez pour nous parler, par exemple, du pôle audiovisuel de Douarnenez, ou alors on ira faire un reportage. Merci beaucoup, en tout cas.
Merci. Au revoir.